Bon dimanche de Pâques, la journée où est-ce que Christ est ressuscité. Vous pouvez, sans plus tarder, ouvrir vos Bibles dans la première épître de Pierre. Et nous allons regarder aujourd'hui le chapitre 1er, les versets 3 à 5. Le titre de cette prédication aujourd'hui est « Régénéré par la résurrection de Jésus-Christ ». 1 Pierre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ni ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce matin, nous avons 4 points. Premier point, selon sa grande miséricorde, verset 3. Deuxième point, régénéré par la résurrection de Jésus-Christ, verset 3 encore. Troisième point, l'espérance vivante, verset 3 et 4. Et quatrième point, gardé par la foi, verset 5. Prions. Oui, Seigneur. Seigneur, utilise ta parole pour nous bénir ce matin. Seigneur, comme priait Jean le Baptiste, que lui puisse augmenter et que moi je régresse. Seigneur, que je sois complètement dissipé et oublié, Seigneur, et que ton Fils Jésus-Christ soit au centre de cet enseignement, Seigneur. Seigneur, c'est toi qu'on vient écouter. On ne vient pas voir un homme. On vient voir notre Dieu. On veut qu'il nous parle. On veut entendre sa parole. Oui, Seigneur, voudrais-tu protéger mes frères et mes sœurs des erreurs de ma bouche, de mon péché, de mon iniquité, Seigneur? Et voudrais-tu nous nourrir par ton Esprit Saint? Nous nous abandonnons à toi, Saint-Esprit, et nous te demandons de nous venir en aide pour éclairer notre intelligence. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas différents de ces disciples du chemin d'Emmaüs. Nous avons besoin que tu retires le voile de notre intelligence. Nous avons besoin que tu nous fasses voir la beauté de ton Évangile. Seigneur, mets nos yeux dans le texte. Fais-nous voir la beauté et les trésors qui s'y cachent. Ah, Seigneur, comme que j'ai peu de mots, devant de si grandes vérités. Viens-moi en aide, Seigneur, par ta grâce. Bénis ce temps pour la gloire de ton nom et pour le bien-être de ton épouse que tu t'es achetée au prix du sang de ton Fils. Amen. Il est ressuscité, frères et sœurs. Christ a vaincu la mort une fois pour toutes. Le Messie d'Israël, celui qui allait sauver le peuple de ses péchés, est venu et il a vaincu. Même les chrétiens qui se font tuer à travers le monde, même quand vous tombez dans le péché ou que vous vous éloignez de votre Dieu, vous êtes dans la victoire d'un autre, celle du Christ. Ah, chrétien, Christ est ressuscité. Le tombeau est vide. Aujourd'hui, nous fêtons la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité. La victoire du deuxième Adam sur la mort, notre plus grand ennemi. Notre plus grand danger, ce n'est pas une troisième guerre mondiale ou qu'est-ce qui se passe en Ukraine ou qu'est-ce qui se passe en Israël. Notre plus grand danger, c'est que nous sommes des pécheurs et que la loi nous condamne. Que tous les commandements de Dieu, on les a brisés. Bien, Christ est mort à la croix. Il nous a prouvé qu'il avait vaincu la mort par sa résurrection. 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » La victoire est nôtre. Nous sommes dans le peuple de la nouvelle alliance accomplie par Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection du Saint-Seigneur Jésus. D'habitude, un sermon du dimanche de Pâques, on est dans un des évangiles et on regarde un épisode où est-ce que Jésus est ressuscité ou apparaît à ses disciples. Cependant, ce matin, j'ai décidé de nous choisir un texte un peu différent lié à la résurrection pour voir comment est-ce que la résurrection nous impacte dans notre vie. Qu'est-ce que la résurrection cause chez le chrétien? Et quelle est la promesse de la résurrection de Christ pour nous? Alors, comme vous avez vu, nous allons être dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Alors, sans plus tarder, commençons par notre premier point, selon sa grande miséricorde, verset 3. Nous lisons, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, avant de commencer dans quoi que ce soit, avant d'aller dans la doctrine, dans l'explication de l'Évangile, hein, l'apôtre Pierre, avant de dérouler tout ce qu'il va dire, quand il va parler de la nouvelle Jérusalem qui nous attend, avant de parler de qu'est-ce que Dieu demande pour le chrétien, avant d'expliquer qu'est-ce que devraient faire les chrétiens dans les liens du mariage, comment se comporter face aux autorités, avant de tout expliquer ça aux chrétiens, l'apôtre Pierre commence par la miséricorde de Dieu, qui est le point de départ du christianisme. J'aime la définition que donne le dictionnaire Robert au mot « miséricorde ». Il définit la miséricorde comme étant suivant. « Pitié par laquelle on pardonne aux coupables. » Pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Moi, j'ai aucun espoir dans cette vie et dans la mort si ça, c'est pas vrai. Si Dieu ne fait pas grâce aux coupables et si le Dieu qu'on vient adorer n'est pas un Dieu qui est prêt à pardonner ceux qui ne méritent pas d'être pardonnés, je suis fait. Je les ai toutes désobéies, les commandements. Je les ai toutes échouées. Seule la miséricorde de Dieu est notre espoir. Et c'est tellement contre-intuitif que le salut fonctionne comme ça. Hein? La miséricorde de Dieu n'est pas naturelle pour nous à comprendre. Ça peut même nous prendre toute une vie chrétienne pour finir par accepter dans nos propres vies la miséricorde de Dieu. On le comprend, on le croit, on le confesse, mais oh, qu'on a de la misère à se l'approprier, hein? Puis à vivre par ça. Puis on va laisser les autres se l'approprier, puis quand on voit que les autres ne vont pas se l'approprier, on va les encourager pour qu'ils arrêtent de faire ça. Mais quand on arrive à notre péché, à nous, là, on ne se rappelle plus cette vérité-là. Le salut par les œuvres, ça fait tellement de sens. Ça se comprend, c'est évident de soi. Hitler va en enfer, Mère Teresa va au ciel. C'est logique. Et si on prendrait n'importe quel homme, il serait d'accord avec ça. C'est comme ça que l'être humain fonctionne dans ses relations avec autrui. Et quand il croit en Dieu et qu'il est toujours mort dans son péché, c'est comme ça qu'il pense, qu'il se met par rapport à Dieu. Par nature, par instinct, on choisit toujours le chemin des œuvres pour aller à Dieu. Essentiellement, c'est parce qu'au Jardin d'Éden, c'était ça la condition. Et nous sommes toujours dans cette alliance-là brisée avec Adam. Et pourquoi est-ce que l'être humain aime tant le chemin des œuvres? Et ça ne fait tellement pas de sens pour lui, la miséricorde de Dieu. Parce que comme ça, il peut se glorifier. Et il peut dire, « Regarde, Seigneur, comme je suis bon. Oh, regarde comment je suis un bon enfant qui mérite ton amour. Oh, regarde comment j'obéis à tous tes commandements. Regarde les autres pécheurs, comment ils sont pas bons, comment ils sont iniques jusque dans l'âme. Et regarde-moi, Seigneur, comment moi j'obéis à mes parents, comment je suis honnête dans mon travail, que je paye toutes mes taxes. Je suis pas comme ces publicains-là. J'obéis à toutes tes règles. » Ainsi, l'homme qui croit être sauvé par son obéissance peut recevoir la gloire qu'il désire tant avoir. Il peut avoir l'attention sur lui. Il va pouvoir faire son fier en rentrant au ciel parce qu'il a travaillé plus fort que quiconque pour y arriver. Mais, entrer au ciel par pure miséricorde, en n'étant pas différent des autres hommes. Oui, en ce moment, vous êtes différent. Le Seigneur vous sanctifie. Le Seigneur a retiré plein de péchés dans votre vie ou est en train de le faire. Mais quand on commence au point de départ, là, toutes les gens qui sont ici, qui suivent le Seigneur, on est la même affaire que n'importe quel pécheur. Les mêmes désirs, les mêmes convoitises, les mêmes projets, les mêmes chicanes, les mêmes commérages, les mêmes désirs de meurtre, la même haine pour nos ennemis. Nous, qui rentrons au ciel par pure miséricorde, malgré nos nombreux péchés, cela, ça ne fait pas de sens pour nous, même pour le chrétien parfois. Et pourquoi c'est tellement merveilleux, la miséricorde de Dieu? C'est que la miséricorde de Dieu détourne les projecteurs et l'attention de l'homme pour le tourner vers lui. Quand Dieu manifeste sa miséricorde, c'est lui qui reçoit la gloire. Et c'est sur lui que l'attention est mise et non pas les hommes. Regardez comment l'apôtre Paul veut qu'on comprenne bien une chose dans Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, il parle aux Éphésiens, par le moyen de la foi. Et là, il va être bien clair. Il leur dit, « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin. » Donc, ce n'est pas par les œuvres, ça amène une conclusion. « Afin que personne ne se glorifie. » Quelconque homme ou mouvement chrétien qui désire mettre les œuvres comme base sur laquelle le chrétien rentre au ciel, réfute ce que l'apôtre Paul dit ici explicitement. Non, ça ne marche pas ton système parce que l'homme va avoir un sujet de gloire autre que la croix. Tu sais, chrétien, ton salut ultimement n'est pas à propos de toi. Ton salut ultimement est à propos de Dieu et de sa gloire. Et de la manifestation de sa grâce à lui. En te sauvant sans tes œuvres, toute la création l'adore. Les anges vont l'adorer, tous les élus vont l'adorer en voyant la miséricorde qu'il te fait. Parfois, on centre toute notre vie chrétienne sur nous, sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sauvé. Et là, on se dit, « Ah, j'ai péché. Ah, je me suis éloigné. » « Ah, je ne mérite pas. Ah, je suis un hypocrite. Ah, là, je l'ai encore abandonné. Ah, là, j'ai pris une nouvelle résolution et là, je l'ai encore délaissé. » Et là, dans ton esprit, tout est centré sur toi. Les projecteurs sont sur ta vie. Tout dépend de toi, de tes performances, de ta discipline, d'à quel point tu es capable. Tu commences par ça. C'est ça que tu mets en avant. C'est ça qui préoccupe constamment tes pensées. Alors que Pierre commence par la miséricorde de Dieu. Tu existes pour un but bien précis, selon l'apôtre Paul. Démontrer la gloire de Dieu dans la manifestation de sa grâce en te pardonnant. C'est pour ça que tu existes. Romains 9, versets 21 à 23. Le potier, en parlant de Dieu, n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse, c'est-à-dire les hommes, un vase d'honneur et un vase d'usage, d'un usage vil, c'est-à-dire qu'il y a le même pécheur, mais dans la grâce souveraine de Dieu, il y a deux destinées. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? Donc ça, c'est ceux qui ne sont pas en Christ. C'est ceux qui refusent de plier le genou devant la seigneurie du Seigneur Jésus, de leur donner leur vie. Et s'il a voulu, là maintenant on parle des élus, on parle des chrétiens. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de quoi? De miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Est-ce qu'ici ça parle de « Ah ouais, Dieu, t'es tellement, oh oui, c'était tellement des bons chrétiens. Ah, il était tellement hot, là, dans l'évangélisation, dans l'intercession, là, wow, là, puis c'est ça qu'on va parler au ciel. » Non. T'es un vase qui est comme les autres et Dieu t'a choisi pour sa gloire, pour montrer sa miséricorde. Ta destinée n'est pas de démontrer la colère de Dieu. Ça, c'était la destinée de Christ à la croix pour toi, de recevoir la colère de Dieu. Ta destinée, c'est que Dieu se glorifie en te pardonnant. Donc, pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Pourquoi est-ce que Dieu t'a tissé dans le ventre de ta mère pour te pardonner? Quelle gloire! Ce n'est pas à propos de toi, chrétien. C'est à propos de lui. Ésaïe 46, verset 13. « Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. » C'est comme ça qu'on devrait parler à Satan quand il nous attaque avec nos fautes et nos péchés. Dieu, il n'est pas piteux dans un coin, là. Dieu, c'est un Dieu glorieux qui a ramené Christ d'entre les morts et qui a tout accompli à la croix. Il l'a fait, le travail. C'est lui qui justifie l'impie. Et tu ne peux pas te déjustifier. Et Pierre continue et qualifie la miséricorde de Dieu. Il dit « sa grande miséricorde ». Elle est grande, la miséricorde de Dieu. Elle n'est pas comptée au compte-gouttes, mais elle est plus grande et plus vaste que n'importe quel océan sur la surface de la terre. Romains 5, verset 20. « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Là où est-ce que ton péché abonde dans ta vie, chrétien, Dieu fait surabonder sa grâce. Dieu ne se lasse jamais, jamais de pardonner son enfant. En fait, il se glorifie en pardonnant. Dans Exode, chapitre 33, verset 18 à 19, Moïse fait une demande à Dieu. Alors qu'il parle avec le Seigneur, il lui dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Ah, c'est pas une belle requête à demander à Dieu, hein? Imaginez, le Dieu suprême de l'univers qui a tout créé, que tout être va comparaître devant lui, qui n'a aucune autorité au-dessus de lui, qui est celui qui contrôle en ce moment le battement de votre cœur et le fait arrêter quand il veut. Ce Dieu-là, imaginez voir un once de sa gloire. Juste une petite lueur de sa majesté. Comment Dieu répond à sa demande de voir sa gloire? L'Éternel répondit, donc il répond à ce que Moïse lui demande. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Et là, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est ça la vision ultime de la gloire de Dieu. Tu veux voir ma gloire? Regarde la croix de mon Fils Jésus-Christ mort par pur amour pour toi. Elle est grande, la miséricorde de Dieu. Et depuis que tu as placé ta foi en Christ, elle t'accompagne dans chaque pièce où tu vas, dans chaque tâche que tu fais, dans chaque rendez-vous que tu as dans ton agenda. La miséricorde de Dieu te suit. Tu n'es pas sous la malédiction de Dieu. C'est fini, ça. Toutes les œuvres qui te condamnaient ont été plantées dans les mains du Christ. Non, maintenant, ce n'est que de la grâce que Dieu te donne. Et de l'autre côté de la mort, c'est un Jésus miséricordieux et compatissant qui t'attend avec un sourire et qu'il est prêt à te montrer combien il t'aime pour l'éternité. Voici ce que notre Jésus dit à propos de nous dans Jean 17, verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Deuxième point. Régénéré par la résurrection de Jésus-Christ. Pierre nous dit que Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. On va y venir à cette formulation-là que Paul fait. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire régénérer? Qu'est-ce que ça signifie? À quoi Paul fait référence ici? Être régénéré, ou comme dirait Jésus lui-même dans Jean 3, être né de nouveau, ça veut dire que Dieu a pris ton cœur de pierre qui symbolise ton esclavage au péché, qui symbolise ta rébellion à Dieu. Le fait qu'en ce moment, si je prendrais ton cœur et que tu ne crois pas en Christ, je ne verrais aucun intérêt pour le Seigneur, aucun désir d'être ici et d'entendre la parole de Dieu. Ce cœur-là rebelle à Dieu, qui ne désire que le péché continuellement et qui ne voit rien de beau et rien d'intéressant dans l'Évangile de Jésus-Christ, c'est l'état naturel de l'homme. Il est mort en Adam. Je pourrais prendre un cadavre et lui faire sentir un bon repas que je lui aurais proposé, il va rester mort. Je pourrais donner à un lion une bonne salade, il ne la mangera pas, c'est un carnivore, ce n'est pas selon sa nature de manger de la salade. La même chose si Dieu n'agit pas pour toi. Et Dieu, donc, a pris ton cœur de pierre et t'a régénéré. C'est-à-dire qu'il a pris ton cœur de pierre et l'a changé en cœur de chair. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tu aimes Dieu. Tu aimes Jésus. Et toute ta vie, ça ne pouvait pas t'intéresser pour Saint-Saëns. Puis là, tout d'un coup, ça devient toute ta vie. Puis, en plus, quand tu vas t'éloigner de Christ, puis quand tu vas revenir dans des anciennes voies, puis quand tu vas revoir tes anciens projets, tu ne pourras plus les goûter longtemps. Tu vas les avoir, puis ils vont te rendre malheureux. Tu vas les revoir, puis tu ne seras jamais bien jusqu'à temps que tu retournes au premier état dans lequel tu étais, c'est-à-dire quand Dieu t'a régénéré. C'est-à-dire que avant tu étais mort, là, tu es vivant et pour de bon. Et il n'y a rien qui peut t'ôter de la main de Dieu. Tu es son enfant, tu as changé, tu n'es plus le même, tu es une nouvelle créature. Et là, si jamais il y a des jeunes enfants qui m'écoutent et qui me disent « Ouais, mais là, Daniel, j'aime Jésus puis je veux le suivre depuis aussi longtemps que je me rappelle. J'ai jamais eu cette expérience-là d'aimer les choses du monde puis là, maintenant, aimer Jésus. » Écoute, c'est ton cas, que Dieu te bénisse, mon enfant. Gloire à Dieu que c'est ton cas. Pas besoin d'avoir vécu cette expérience-là si, d'aussi longtemps que tu te rappelles, tu aimes le Seigneur Jésus. On voit dans la Bible des gens qui sont régénérés très jeunes, comme par exemple Jean le Baptiste. Ça se peut très bien que ce soit ton cas. Si tu aimes le Seigneur Jésus, si tu veux le suivre, toi, enfant qui m'écoute, tu peux t'approprier ces promesses-là. Pas besoin d'aller dans le monde. Continue à suivre le Seigneur. Même que nous qui sommes devenus chrétiens adultes, on t'envie. Et on aurait aimé ça, être régénéré à ton âge. Il y a bien des affaires qu'on n'aurait pas fait, n'est-ce pas? Cependant, si tu m'écoutes en ce moment et que tout ce que tu vois dans la parole de Dieu, tu t'en fous. Ça ne te fait rien. En fait, t'as hâte que j'aille retourner me rasseoir, que j'arrête de parler, puis que tout ça soit fini pour que tu puisses retourner aux affaires que tu aimes vraiment faire. Si tu as juste de la froideur pour ça, écoute, crains, mon ami. Parce que Christ est ressuscité, puis Christ est roi, puis un jour tu vas lui rendre des comptes. Un jour, il va te demander, quand l'Évangile a été prêché, quand ma parole était devant toi, qu'est-ce que tu as fait? Alors que ma miséricorde était là, que tu pouvais la saisir. Qu'est-ce que tu as fait? Si ton cœur s'en fout du Seigneur, tu n'as pas le droit d'avoir ces promesses-là. Ton cœur n'est visiblement pas régénéré. Et là, je ne suis pas en train de parler ici que tu luttes avec un cœur froid puis que ça te brise. Ça, ce n'est pas normal si tu es mort dans tes péchés. Ça ne peut pas arriver. Ça, c'est le cœur d'un chrétien qui est régénéré et qui souffre. Mais que ça passe là, tout droit, là, 6 pieds par-dessus tête. Et ça m'était arrivé bien avant. Je me rappelle d'aller à l'église Le Portail avec des amis. Et alors qu'on se vautrait dans le péché, il y avait des appels de repentance en avant. Puis là, je m'en allais avec mes amis, là, tout là, là. Aucune crainte de Dieu. Aucune sincérité. Je retournais exactement dans la même chose que j'avais fait et j'en avais rien à faire. J'étais là parce que c'était la hype du moment, puis il y avait plein de monde qui s'avançait en avant. Puis là, on fermait nos yeux, on priait, mais on savait très bien tout ce qu'on allait retourner faire après. Est-ce que tu as vu, est-ce que tu vois ton cœur être transformé par Dieu? Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui est le jour du salut, si c'est ton cas. 1 Corinthiens 16, 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Il n'y a personne qui va rentrer au ciel qui n'aimera pas le Seigneur. Laisse-moi te poser une question. Si tu n'aimes pas le Seigneur et que tu n'as pas envie d'être ici, bien, qu'est-ce que tu veux faire au ciel? Pourquoi tu veux venir? Tu penses que c'est quoi? Tu penses qu'on va jouer au basket 24 heures sur 24? Pourquoi tu veux venir? Pourquoi tu devrais avoir une place? Si tu n'aimes pas celui qui va être au milieu de nous. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous essayez de prier ou de chanter, puis admettons avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement croyant, puis vous sentez comme un petit malaise qui vous trouve bizarre et que, et que vous voyez qu'il n'est pas dedans, là, puis qu'il y a comme hâte que vous finissez. Là. Il n'y aura pas de monde de même au ciel, je peux te le garantir. Il n'y aura pas du monde qui va se tourner les pouces. Non. Tu n'aimes pas le Seigneur, anathème. Au jour du jugement, Christ ne t'acceptera pas. Et je ne parle pas d'un amour parfait, mais c'est R.C. Sproul qui disait, s'il y a un amour point, ça vient de l'esprit et ça ne vient pas d'un cœur régénéré. Tu n'es pas sauvé par la force de ta foi, la clarté de ta foi, la robustesse de ta foi. Tu es sauvé par l'objet de la foi qui est Christ. Rappelez-vous de la femme qui avait des écoulements de sang. Elle s'est dit, si je touche sa robe, je vais être guéri. Et Jésus a dit, t'es sauvé. Ta foi t'a sauvé parce qu'elle a mis sa foi en Christ. Et cette régénération, Pierre nous dit, Dieu l'a opérée par la résurrection de Jésus-Christ. On pourrait se dire, il l'a opérée par le Saint-Esprit, il l'a opérée par sa puissance. Mais pourquoi par la résurrection de Jésus-Christ? Quand Christ est ressuscité, tu étais mort. En fait, tu étais mort. Non, tu n'existais pas, devrais-je dire. Tu n'étais pas encore à l'existence. Tu n'étais pas encore régénéré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ? Eh bien, John Piper le mentionne le fait que cela fait du sens. Pourquoi? Parce que tu es uni au Christ par la foi. De façon qui dépasse la raison, toi, en tant que chrétien, tu es uni avec le Christ qui est au ciel. Comme qu'un homme et une femme deviennent une seule chair, une fois que le mariage est fait devant l'autel, bien, au moment de la foi, Tu fais partie du corps du Christ et tu es en union avec le Christ qui est au ciel. Il vit en toi. Tu es en lui qui est la vigne. Tu te nourris de lui par la foi. On va se nourrir du Christ qui est au ciel par la Sainte Seine juste après. Donc, il est ta tête, il est ta vie, il est ta force et tu fais partie de son corps. Regardez comment Paul vous identifie à Christ. Et ce qui arrive à Christ vous arrive à vous. Regardez ce qu'il dit dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Romains 6, versets 8 et 9. Or, si nous sommes morts avec Christ, Christ est mort tout seul. Toi, tu n'existais pas encore, mais Paul nous dit qu'on est mort avec lui. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Il meurt, tu meurs. Il vit, il vit. Tu vis. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, tu as été régénéré par la résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est par sa résurrection, c'est par la même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts, c'est la même puissance qui t'a fait naître de nouveau. Il a acquis en étant ressuscité ta régénération. Il est en vie, alors ton âme est en vie. Il a un corps glorifié, alors un jour tu vas avoir un corps glorifié. Il est ton représentant. Il est l'héritier du royaume, tu es héritier du royaume. Tout ce qui est à lui est à toi. Moi, si je meurs, tout s'en va à Barbara dans la loi fiscale du Québec. Elle va être extrêmement riche, je peux vous le dire. J'ai une coupe de livres qui vaut cher, c'est toi, je dis ça. T'sais. Mais parce qu'on est dans une alliance et qu'on est unis, c'est la même chose avec le Christ. Et ta régénération, qui est liée à la résurrection de Christ d'entre les morts, est aussi ta garantie que non seulement ton âme est régénérée, mais tout ton corps en entier va être restauré et rénové. Ta résurrection spirituelle est la promesse que tu auras une résurrection physique. 1 Jean 3, versets 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Ça nous amène à notre troisième point, l'espérance vivante. Donc, Dieu nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ parce qu'il est ton représentant. Il nous dit qu'il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage. Donc, il y a un but à ta résurrection spirituelle et à la résurrection de Christ. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Tu es régénéré pour cette espérance-là. Dieu, il fait rien pour rien. Dieu t'a régénéré pour te donner une garantie qu'il va te ressusciter, que tu vas être dans cet héritage-là. Christ est la prémisse de la récolte qui s'en vient. Voir sa résurrection, ça t'amène à la future résurrection. 1 Corinthiens 15, verset, en commençant par le verset 23 et jusqu'au verset 24. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, et après avoir détruit et après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Christ est ressuscité et c'est ton espoir que toi aussi un jour tu vas sortir du tombeau. Et si Christ est les premiers fruits, pouvez-vous imaginer ça va être quoi la récolte? Si Christ est l'avant-goût du ciel, Christ glorifié est l'avant-goût du ciel, qu'est-ce qui nous attend à son retour? On sait qu'une récolte va être bonne par les premiers fruits. Et bien là, on sait que le ciel va être bon car Christ est ressuscité. Le texte nous dit que c'est une espérance vivante. Est-ce que tu as de l'espoir ce matin, chrétien? Est-ce que tu as de la joie dans ton cœur ou est-ce que ton âme est dans la noirceur? Dieu t'a régénéré pour que l'espérance de la vie éternelle soit en toi. Voyez, Dieu ne vous a pas régénéré pour que vous vous demandiez, « Ah ben là, aujourd'hui, je suis sauvé, l'autre journée, je ne suis pas sauvé. » Non, il veut mettre l'espérance de la vie éternelle. Que l'espérance de la vie éternelle soit dans tes pensées, soit sur ta bouche, que ça puisse être continuellement de quoi, de ce de quoi tu t'abreuves. Le Larousse définit l'espoir de la façon suivante. Moi, je sais, je cite beaucoup de dictionnaires pour cette prédication, pardonnez-moi. Des fois, ils ont des bonnes définitions. Pas toujours, mais des fois, ils ont des bonnes. Il définit l'espoir comme ça. Attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. C'est ça l'espérance. Attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. Et tu as une base pour l'attendre. Le texte nous montre Christ est ressuscité. C'est long parfois, Notre très frère, très cher frère Donald, il trouve ça long. Il nous le dit souvent. Mais moi aussi, je trouve ça long, Donald. Des fois, on se dit, il s'en vient dessus, là, mais ça serait le temps qui arrive. Là. Ça fait 2000 ans, là, ça serait le fun. Mais ça se peut qu'il revienne prochainement, comme ça se peut qu'il tarde encore, si telle est sa volonté. Mais réalise, par exemple, que Dieu sait quand il renvoie son Fils sur terre, terminer l'œuvre qu'il a commencée. Dieu sait c'est quel jour et dans les pensées de Dieu, ce jour-là existe. Il est à quelque part dans le futur. En quelle année, quel jour, quelle heure, quelle seconde, ça va-tu être en hiver, ça va-tu être en été, on va-tu être à l'église, on va-tu être mort? On ne le sait pas. Mais Dieu le sait. Et ce jour-là, il ne sera pas avancé, il ne sera pas reculé, il ne sera pas oublié. Dieu n'oublie pas ses rendez-vous, inquiétez-vous pas. Moi, je les oublie, mais pas lui. Dieu sait et a décidé quand est-ce que Christ va revenir. Et voici ce qu'il va faire quand il va revenir, nous dit 2 Timothée 4, versets 7 à 8. C'est l'apôtre Paul qui parle de la fin de sa vie. Il dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste jour, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Quelque chose qui décrit le chrétien, c'est qu'il aime le jour de la venue de Jésus. Pour lui, c'est une bonne nouvelle. Ça lui donne de la joie. Vous imaginez Christ descendre du ciel avec ses légions d'anges et tout arrêter sur terre pour dire que maintenant est le jour de l'Éternel. Le texte nous dit que cet héritage-là que Christ nous a acquis et que nous promet sa résurrection, il ne peut flétrir, il ne peut se souiller, nous dit l'apôtre Pierre. Il n'y a personne qui peut te l'enlever, chrétien, cet héritage-là. Jean 14, versets 1 à 2. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Est-ce que ton Jésus te ment ici? Est-ce que ton Jésus te trompe ici? Est-ce qu'il te fait accroire des affaires? Non, parce qu'il dit « ça serait faux, là, puis s'il n'y aurait rien, je te l'aurais dit. » Tu peux lui faire confiance. Moi, je peux te mentir, tu peux te mentir à toi-même, mais Christ ne te mentira jamais. Jamais. Il est la vérité. Comment est-ce qu'il pourrait dire un mensonge? Il va te préparer une place, peu importe ce qui t'arrive ici. Hein, il pourrait arriver une persécution, puis on se ferait chasser, comme qu'on voit par exemple dans l'Épître aux Hébreux, où est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit à ses auteurs que vous avez abandonné vos biens, vous avez abandonné vos maisons, avec joie, en sachant que vous avez un plus grand héritage dans les cieux. Peu importe ce qui arrive, on a une place. Il y a un endroit au ciel, nous promet Jésus, qui t'attend, qui le Christ lui-même a été le réserver. Personne ne peut prendre ta place. Non, c'est ton héritage. Le point que Pierre veut mettre l'emphase, c'est qu'il ne peut pas changer cet héritage-là, il ne peut pas s'altérer, il ne peut pas être détruit. Mon film préféré, ben, je dirais ma trilogie préférée, devrais-je dire. Ben, dans la trilogie, j'ai mon film préféré, c'est le premier. C'est Le Seigneur des Anneaux. Ah, j'aime Le Seigneur des Anneaux. J.R.R. Tolkien, qui était un chrétien catholique, a écrit Le Seigneur des Anneaux. Puis c'est tellement bon. Hein, j'en parle souvent avec ma femme. C'est un des seuls films qu'on peut voir sans nudité, sans vulgarité, sans blasphème. Il n'y a pas l'air d'avoir de péché dans ce film-là. Puis il est bon, puis il est intéressant, puis il est captivant. C'est vraiment un bon film. Et j'ai comme une scène un peu préférée, ou un bout du premier film préféré. Je ne sais pas pourquoi ça me fait tout le temps ce même effet-là. C'est au début du film où est-ce que Bilbon nous présente la comté des Hobbits. Et là, on voit là, les Hobbits là, en train de faire dans leur chant, là, puis là, les oiseaux chantent, il fait beau soleil, là, puis comme c'est beau leur comté. Puis ils sont là, puis il y a la petite musique joyeuse, là, puis là, ils fument la pipe en dessous de l'arbre, ils sont en train de boire de la bière. Ou ils vivent leur vie, les Hobbits. Là, sont heureux d'être là. Puis on nous met, J.R.R. Tolkien, en tout cas dans son histoire, met cette scène-là pour nous montrer la situation initiale qui est tellement belle avant toute la guerre qui va venir à cause de l'anneau, pardonnez-moi. Et là, toute la guerre qui va arriver, le chemin que Frodon va faire. Mais je regarde ça, là, puis je me dis, ça tue... Vous allez me trouver bizarre, là. Je veux dire, ça tue l'air le fun d'être un Hobbit? Ils ont-tu l'air bien, rien qu'un peu? Puis je me dis, si, là, l'imagination de Peter Jackson, le réalisateur de ce film-là, crée en moi cet état-là de paix et ce désir-là d'être dans des endroits comme ça, je me dis, qu'est-ce que ça va être quand que là, je vais arriver dans la cité qui n'est pas faite de main d'homme et qui ne vient pas de l'imagination humaine, mais que le constructeur est Dieu lui-même. Hey, regardez la terre, comment qu'elle est belle, et elle est sous le poids du péché, et elle est sous la malédiction d'Adam. Et l'Épître aux Romains nous dit que la terre attend la révélation des fils de Dieu. Pouvez-vous imaginer à quoi qu'elle va ressembler, la nouvelle terre? Bientôt, je m'en vais en Europe avec ma femme, j'ai tellement hâte d'aller voir les grandes cathédrales et les grands monuments européens. Ça va ressembler à quoi, les villes que Dieu va construire? Hein? À quoi ça va ressembler, les bâtiments qu'il va y avoir, comme nous décrit l'Apocalypse? C'est cet héritage-là que Pierre nous donne. Et il donne ça à des gens qui sont détestés par la société, rejetés par les Juifs, rejetés par leur famille, et qui sont là et qui, en apparence, n'ont rien. Ils sont les plus malheureux des hommes, nous dit l'apôtre Paul, si Christ n'est pas ressuscité. Mais ils sont pauvres, mais ils rendent beaucoup d'hommes riches. C'est ce qui nous attend. Hébreux 13, verset 14. « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Cinquième point, pour terminer. « Gardez par la foi. » Verset 5. Le texte nous dit, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire au Seigneur, et en fait, je ne pose pas une question, mais c'est bien une affirmation, devrais-je dire, de dire au Seigneur, là, je suis tanné. Là, ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase, là. Seigneur, je ne suis plus capable. Te suivre, c'est trop difficile, il y a trop d'épreuves, il y a trop de tentations, j'ai trop de péchés, il y a trop de gens qui sont contre moi, dans mon entourage, trop d'affaires qui finalement ne donnent pas comme que je l'espérais, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi je te suis si mon sort est le même que tous les hommes autour de moi. Hein, comme nous dit David dans les psaumes, à quoi bon servir l'Éternel si nous avons le même sort que les méchants? Avant d'arriver dans l'espérance, bien sûr. Des fois, on a ces réflexions-là, puis là, on se dit, ben là, regarde dans quel état je suis, je vais finir par claquer, je vais finir par fermer la porte, puis on ne me reverra plus ici, là, tu sais. Le texte nous dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Si ça serait entre tes mains, là, puis que ça dépendrait de toi, je serais stressé à tous les jours de ne plus te voir ici. Mais c'est pas ça. Une brebis de Christ, là, même si ça a l'air de ne pas aller bien, là, puis ça a l'air d'être la catastrophe, là, il y a comme une sérénité qui reste dans mon cœur pareil. Ben, je sais que ça, c'est vrai. Puis que Dieu finit ce qu'il a commencé. Philippiens 1:6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Chrétien, réalise que tu es gardé, tu es protégé, tu es scellé de l'Esprit de Dieu. Dieu ne fait pas chemin en arrière. Dieu est pas, il fait pas des jobs à moitié. Dieu t'a justifié, Dieu t'a rendu sanctifié, bien Dieu va te glorifier. C'est la grande chaîne hein, du salut qu'on voit dans l'Épître aux Romains. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé le soleil qui brille dehors et la lune qu'on va voir briller quand il va faire noir, le Dieu qui a créé les étoiles et les galaxies, qui a fait ça par sa parole à partir de rien, penses-tu vraiment qu'il y a quelque chose qui va t'ôter dans la main de ce Dieu-là? L'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Elle passe à travers toutes les créatures. Et parfois, quand je rencontre des gens qui, puis que le Seigneur les bénisse, des frères et des sœurs, mais qui pensent qu'on peut perdre notre salut, des fois j'ai envie de leur dire, dans cette liste-là que l'apôtre Paul il fait, il en a oublié un. Il a oublié toi. Toi, tu peux t'ôter de la main de Dieu, toi. Toi, tu peux te séparer de l'amour de Dieu. Son but, là, c'est de tout englober, là, toutes les affaires qu'on peut imaginer. Puis il a dit, il n'y a rien. C'est pas d'en trouver une. Il n'y en a pas. Rien ne te séparera de l'amour de Dieu. 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. On n'a-tu pas un grand Dieu qui est là et qui prend soin de nous? Alors, bien sûr que ça, ce n'est jamais une excuse pour rester dans le péché ni rester dans l'inactivité. En fait, quand tu reviens à la foi, quand tu te repens, c'est justement Dieu qui te garde par sa puissance. C'est la manifestation qui crée en toi le vouloir et le faire. Et le moyen que Dieu utilise pour te garder, nous dit le texte, c'est la foi. Hein? Le texte nous dit être gardé par la foi pour le salut à venir. Donc, c'est la foi que Dieu utilise pour te garder en vie spirituellement. Et comment peux-tu protéger ta foi? Et comment peux-tu la faire grandir? Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Toutes les choses sont importantes dans la vie chrétienne. Hein, on a commencé en église à faire des réunions de prière le matin, durant la semaine. Et c'est très important de prier. Mais c'est la parole de Dieu qui suscite la foi. si on n'a pas les promesses de Dieu pour nous aider à prier, si on n'est pas nourri et réchauffé par la parole de Dieu pour prier, c'est pas là qu'on va avoir une garantie d'avoir la foi. Mais c'est par la parole. Le plus de temps que tu vas passer dans la parole, le plus que ta foi va grandir. Hein, les gens qui étaient des missionnaires là, puis qui allaient à travers le monde là, pour servir le Seigneur, là, ils ne passaient pas 5 minutes le matin en train de faire à déjeuner pour lire leur Bible. Ils passaient du temps dans les saintes Écritures. Puis laisse-moi te poser une question. Y a-tu une seule fois dans ta vie, là, où est-ce que tu t'es, mettons, je ne sais pas, levé plus de bonheur ou vraiment tu as mis du temps à part, tu as sorti 2-3, mettons, commentaires dévotionnels, tu te prends des notes, puis tu te dis, là, je vais vraiment essayer de comprendre ce qu'il veut dire ce texte-là, puis allez, je vais vraiment prier le Seigneur pour qu'il me nourrisse, là. Ça t'est-il déjà arrivé que tu as fait ça et que tu l'aies regretté? Puis tu te dis, ah, j'aurais pas dû faire ça, j'ai perdu mon temps. Non. Par exemple, moi, ça m'est arrivé, oh, comme ça m'est arrivé, nombreuses fois. De me lever le matin, de penser aux choses qui s'en viennent, de me dépêcher à lire mon chapitre ou deux, là, à moitié concentré. Là. Puis là, OK, c'est beau, faut qu'on aille faire des affaires. Là, par exemple, je le regrette. Puis là, je le vois. Qu'est-ce que ça l'amène? Mais les matins où est-ce que, non seulement il y a de la prière, c'est important la prière, mais où est-ce qu'il y a de la parole de Dieu qui est nourrie, ça fait une différence. Hein, je pense que c'était le roi Ézéchias que Dieu lui disait de lire de ce livre-là à toutes les jours. Je pense que c'était Josué, excusez-moi, pas Ézéchias. Donc, la foi démontre, je veux dire, la prière démontre la foi, les actions démontrent la foi, mais c'est la parole de Dieu qui amène la foi à l'existence. On va plus tard dans 1 Pierre réexplique qu'on est amené à la foi par la parole de Dieu non périssable. Donc, agissons pour nourrir notre foi. Si notre foi est basse, si notre foi est piètre, il faut regarder l'évidence. Est-ce qu'on utilise les moyens de grâce pour nourrir notre foi? Vous savez, ça me convainc tout le temps de pécher quand que je regarde des athlètes sportifs. Et un de mes athlètes préférés, c'est Kobe Bryant. Avant d'être chrétien, j'étais un très grand fan de basketball. Et ça me faisait toujours capoter de voir les anecdotes qu'on a sur Kobe Bryant. Que Kobe Bryant, il avait une mentalité un petit peu intense par rapport aux autres. Je vais juste vous donner un exemple. À un moment donné, il y avait un joueur qui était arrivé puis qui s'en allait jouer à Los Angeles parce qu'il y avait l'équipe, les Lakers de Kobe Bryant. Et le joueur, il arrivait à 5 heures le matin puis il voyait que Kobe Bryant était déjà là. Puis là, il repartait le soir à 8-9 heures. Il s'avait entraîné toute la journée, faire du cardio, faire les paniers. Puis Kobe Bryant était encore là pendant qu'il partait. Puis à un moment donné, il était le voir, il a dit, « Comment ça se fait qu'à chaque fois que je vais m'entraîner, tu es là avant moi, puis tu es là après moi? » Puis Kobe Bryant, il avait répondu, « C'est parce que je veux que tu comprennes que peu importe comment tu travailles fort, je vais toujours travailler plus fort que toi. » Pour jouer mentalement, pour montrer, « Regarde-moi, ça, c'est toute ma vie, le basketball. Puis je vais me donner à 100%. » Kobe Bryant, il est mort dans un accident d'hélicoptère, malheureusement avec sa fille. Et je ne connais pas l'état de son âme. J'espère qu'il a crié à Dieu quand il a vu l'hélicoptère descendre et qu'il a été à Christ. C'est mon espérance. Mais il s'est dédié toute sa vie pour ça. Et nous, on a Dieu, on a la parole de Dieu, on a toutes ces promesses-là et on veut juste y aller un petit peu en surface. Il faut réaliser que... Puis, hey, croyez pas que je vous dis ça pour vous faire des leçons. Hein. Je me prêche à moi-même, hein, n'oubliez pas ça, hein. Pas parce que je te cite, moi, là, que oui, j'allais la faire. Là. Demandez à ma femme. mais c'est ça qu'il faut réaliser. Puis c'est continuellement, il faut continuellement revenir à ça, à la priorité de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, mon Dieu, je te prie que tu puisses nous amener, Seigneur, à plus penser à ces choses, Seigneur. Que notre vie puisse être transformée par ta parole. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous de la négliger, Seigneur. Et on te prie de nous changer. Et Seigneur, je te prie que tu puisses, en cette journée de Pâques, Seigneur, ce dimanche de Pâques, devrais-je dire, garde nos pensées centrées sur ton Fils. Alors qu'on va aller faire différentes choses, je te prie que tu puisses nous donner des pensées par ton Esprit Saint de joie quant à la résurrection de ton Fils. Et je te prie qu'il puisse y avoir personne ici qui ne participe pas à la résurrection en Jésus-Christ. Seigneur, qu'il puisse voir ton ciel et non pas ta colère en enfer. Seigneur, par ta grâce, sois avec nous.
Amen.